France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours en Corse, toujours à Bonifacio. Hier, je vous présentais Derenava, la biennale d'art contemporain qui s'infiltre dans les lieux emblématiques de la ville. Ville qui n'en manque pas d'ailleurs, des lieux tant son histoire mouvementée et riche en rebondissements. Alors je vous propose, après les chants polyphoniques, de nous glisser dans une visite historique de la ville qui commence là juste dans 5 minutes.
Baptiste Di Simone est assistant de direction au service patrimoine de la commune de Bonifacio, également diplômé guide conférencier. Et donc on fait cette visite dans le cadre de l'animation du label Ville d'Arrêt d'Histoire qu'a obtenu la commune en 2019. Et c'est pour nous un plaisir de vous recevoir et de vous faire un peu découvrir une partie de notre patrimoine, de notre histoire et de notre identité. Donc, pour vous faire un petit résumé, ici vous êtes à Bonifacio. Bonifacio, c'est une cité qui est très visitée. Il y a plus de 2 millions de visiteurs par an. C'est une ville qui est visitée, qui est admirée, mais qui n'est pas encore assez racontée. Voilà. Et donc l'obtention de ce label, il se fait aussi dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire depuis plusieurs années. À Bonifacio, nous avons une identité spécifique qui se distingue du reste de la Corse et qui est assez particulière en Méditerranée. Voilà. Donc ce site bonifacien, il est très très ancien. Il s'est formé il y a moins de 15 millions d'années à peu près. À la base, le bloc Corso-Sarde était un seul bloc. Donc il n'y avait pas d'espace, je dirais, entre Bonifacio et aujourd'hui Santa Teresa qui est juste en face. Et avec la tectonique des plaques, le mouvement, le bloc Corso-Sarde fait une rotation de 45 degrés et se positionne à peu près dans la dimension dans laquelle il est aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que vont se former ce que vous avez juste derrière vous, les bouches de Bonifacio. Et la première spécificité de Bonifacio, c'est sa géologie. Parce que tout l'extrême sud de la Corse, vous êtes à 80% dans du granit, et nous sommes sur du calcaire. Ça, c'est le premier facteur de notre identité. C'est-à-dire qu'on est sur un site exceptionnel, et la ville, elle s'est développée en prenant en compte cet aspect-là. Ensuite, Bonifacio, c'est avant tout un abri naturel très recherché par les marins. C'est un grand port de commerce. En particulier pendant toutes les périodes préhistoriques, antiques, modernes et médiévales. Et c'est à ça que l'on doit la spécificité du site bonifacien, c'est-à-dire que vous rentrez dans ce port qui est abrité de tous les vents et qui est surtout invisible depuis la mer, parce que Bonifacio est une presqu'île. Ici, nous sommes au centre même de cette presqu'île, nous sommes rattachés par un petit couloir de seulement une centaine de mètres de large, au reste de la Corse. Donc on est dans un espace très restreint, mais bien évidemment, ce qui a fait l'identité bonifacienne et sa spécificité, c'est que nous nous trouvons au milieu d'un détroit. Et forcément, qui dit milieu d'un détroit, dit un espace très convoité par toutes les puissances de Méditerranée, quelles qu'elles soient, durant les siècles. En Corse, on a appelé le XVIIe siècle le siècle de fer. C'est-à-dire que Gênes a définitivement mis la main sur l'île et sur toutes les contrées de cette île. Et elle y impose sa loi. En 1729, les Corses prennent les armes et se révoltent. Parce qu'ils ne se sentaient pas représentés dans les instances génoises, parce qu'il y avait une politique fiscale très agressive, des impôts qui, de base, avaient été prononcés temporairement pour construire des tours ou pour construire des fortifications qui, finalement, vont rester. Et comme on dit chez nous en Corse, outropoustropia. Et donc, les Corses se révoltent. Donc ça c'est le père de la patrie corse, qui est Giacinto Paoli, le père de Pascal Paoli, qui prend la tête des révoltés. Donc ça commence en 1729. Les Génois sont de suite débordés par une révolte populaire. Et donc, il y a ces révolutions de Corse. Bonifacio n'y prend pas part. Hein. Nous sommes une colonie génoise. Nous sommes protégés par ce que vous avez vu, hein, nos énormes fortifications. Paoli va tenter à maintes et maintes reprises d'attirer les bonifaciens dans son camp. La réponse, elle a toujours été identique. Nous sommes génois, nous ne nous considérons pas comme Corse, et un point c'est tout. Voilà. Donc il y a ces révoltes. Les Génois sont complètement dépassés et vont faire appel à l'Empire de Charles IV et à la France, dans un premier temps. Donc la France, elle intervient une première fois en Corse de 1731 à 1734. Et donc ensuite, une fois que la situation pour Gênes a été rétablie, les Français s'en vont et Gênes reprend un peu la main, sauf que les Génois sont déjà au bord du gouffre. Et la situation, elle va s'éterniser jusqu'en 1755 où la Corse va déclarer son indépendance. Bonifacio, ville commerciale par excellence, se retrouve d'un coup ville frontière, aux confins d'un, quand même, d'un grand empire de l'Europe, hein, d'un grand pays européen, isolé, dans une région où derrière nous, c'est semi-désertique, il n'y avait pas de ville hein, à l'époque, voilà. Et c'est pour cela que Bonifacio va devenir une ville garnison, une ville strictement à vocation militaire. Les relations commerciales avec la Sardaigne-Italie sont volontairement coupées. C'est ce qu'on a appelé la politique de francisation, qui était générale à toute la Corse. La définition de francisation, c'est le fait, c'est ce qu'a fait la France pour déraciner les Corses de leur aire culturelle naturelle, pour qu'elles s'intègrent dans ce nouveau ordre établi. Voilà, parce que on va le dire franchement, dans les régions centrales de la Corse, les régions montagneuses, avant le XVIIIe siècle, les relations avec la France, elles étaient inexistantes. Quand vous prenez la Corse sur une carte, vous avez Gênes à une centaine de kilomètres et la Toscane à 80 kilomètres et la Sardaigne à 10. Paradoxalement, nos frères sardes, avec qui on a toujours eu de bonnes relations, du jour au lendemain, deviennent nos ennemis. Voilà. La francisation, ça s'est manifesté par deux choses. La première, c'était sur le terrain militaire. Et donc, il y a une terrible politique de répression qui est mise en place par la monarchie française, et ensuite même par Napoléon Bonaparte, hein, qui va accéder au pouvoir et qui va poursuivre cette politique. Et sur le terrain culturel, il a fallu pour les Corses apprendre à parler français, hein, et pour les Bonifaciens aussi. Donc nous avons notre propre langue, hein, notre propre dialecte, originaire du génois en raison du passif historique de notre ville. Et donc il a fallu pour les Bonifaciens et les Corses apprendre à parler français, hein, parce que les Corses parlaient le corse, et la noblesse parlait un italien parfait, et les relations avec l'Italie et la Toscane en particulier étaient plus que fraternelles. Et donc on est dans ce basculement du 19e siècle. Pour introduire un peu tous ces propos sur ce Bonifacio génois, ici, nous sommes en plein centre hein, de la ville génoise. Nous sommes dans l'édifice Sainte-Marie-Majeure, qui est sûrement l'édifice le plus symbolique de la ville, puisque lorsque les Génois s'installent à Bonifacio, ils vont construire la ville à partir de l'église, tout simplement. Voilà. Donc, lorsque vous prenez un plan RN de Bonifacio, vous avez Sainte-Marie-Majeure qui est en son centre, et les quatre rues principales de la ville, elles partent d'ici. Et donc ici, on est dans le quartier véritablement politique, puisqu'ils se réunissaient dans cette église même pour prendre des décisions. Voilà. Et vous avez cette loge, qui est une sorte de préau, qui a été construit au XIVe siècle, et sous cette loge, c'était le cœur de rassemblement hein, de la communauté bonifacienne, où chaque mardi et chaque vendredi matin, les bonifaciens pouvaient rendre visite aux autorités politiques de la ville et pour faire part de leurs doléances. Voilà. Donc la vie de la cité, elle se déroulait principalement ici. On passe devant l'escalier du Roi Dragon qui sont l'un des éléments incontournables du patrimoine bonifacien. Ces escaliers ont été construits en 1480. Ce sont des escaliers de secours à la base qui servaient justement en cas d'attaque à prendre la fuite parce que vous avez un endroit tout en bas, il y a 189 marches hein, tout en bas où on a la place pour mettre des navires et mettre des bateaux pour prendre la mer et partir en cas d'attaque. Donc il porte le nom de Roi d'Aragon puisque le Roi d'Aragon a convoité la Corse et Bonifacio, il y a eu un siège. C'est le plus grand moment de notre histoire, hein. C'est le siège de 1420. Voilà, c'était un empire très puissant qui a réussi à conquérir toutes les îles de Méditerranée en même pas un siècle, sauf la Corse. Donc c'est l'un des sièges les plus emblématiques du Moyen-Âge. C'est un siège qui a été extrêmement long, qui a duré 3 mois, au bout duquel il y a eu d'énormes tractations, et c'est finalement l'État génois qui a dépêché une flotte de secours au dernier moment, alors que l'ultimatum avait été fixé de rendre à la ville le 1er janvier 1421, le 29 décembre. Trois jours avant, la flotte génoise arrive et libère la ville. Voilà, elle ravitaille ses habitants qui cassent le blocus, qui se remettent au combat et qui provoquent la fuite de l'Aragon. Donc, pour nous bonifaciens, c'est quand même un événement énorme. C'est aussi le marqueur de notre histoire tout au fil des siècles. Et Il y en a énormément qui ont perdu la vie ici. Et donc, on a nommé cet escalier du roi d'Aragon parce que nous, chez nous, vous le savez, hein, les Corses et les Bonifaciens sont des gens qui rigolent tout le temps. Nous, on appelle ça la magagne. Hein. En français, on dit on charrie. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. On charrie. Donc, nous, on dit ça, on appelle ça la magagne. Nous, on magagne tout le temps. Et même quand on attribue des noms, on magagne beaucoup. Et alors, le roi d'Aragon, pourquoi? Parce que, en fait, il a été construit 60 ans après le siège et on a rendu hommage au roi qu'on a battu, quoi. Hein, voilà, tout simplement.
Merci Marie Sorbier et on vous retrouve demain pour la visite du musée de la préfecture de police de Paris dans le 5e arrondissement.